perdre aux voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des nouveaux métiers autour de l'agriculture en Afrique. C'est pas tant la terre qui rebute les jeunes, mais plutôt les conditions de vie en zone rurale et le travail manuel harassant. Le secteur agricole emploie une main-d'œuvre vieillissante et pauvre, mais de nouveaux métiers apparaissent, liés notamment à la digitalisation. De la micro-irrigation, gérée par l'informatique pour augmenter les rendements, des drones pour informer à distance, pour pulvériser des intrants, des applications numériques pour mettre en relation les producteurs et les transformateurs, ou tout simplement de la conception d'outils léger pour éviter de manier la daba par 40 degrés. Ces technologies sont-elles vraiment à la portée financière du continent et des organisations paysannes? Les jeunes peuvent-ils participer à la modernisation du secteur agricole? On attend vos points de vue et vos témoignages. Appelez-nous dès maintenant sur le WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. À Paris, dans le studio, Pascal Bonnet est à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, chargé de la stratégie internationale à l'Institut Convergence Agriculture Numérique. Également en ligne avec nous, Ededona Etchri. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Lomé, au Togo. Vous êtes promoteur de la plateforme numérique e-agribusiness. C'est une plateforme qui met en relation des producteurs et des transformateurs. Et puis, vous êtes fondateur d'une école qui s'appelle e-agrisky, centre de certification de l'aviation agricole et d'agriculture de précision. Vous allez nous en parler. On sera aussi en ligne tout à l'heure avec donc Cora Kambou, qui est directeur général des aménagements hydro-agricoles et du développement de l'irrigation au ministère de l'Agriculture au Burkina Faso. Et puis aussi Ousmane Faye, qui est un producteur de télé, produit Ferme Factory, qui est maintenant très connu, émission de télé-réalité sénégalaise, gros succès. C'est une compétition agricole entre jeunes, avec à la clé de la formation et de l'aide financière, dont le CIRAD d'ailleurs est partenaire. Voilà, je vous rappelle notre numéro de téléphone. Où que vous soyez, on parle de ces nouveaux métiers sur le continent africain reliés à l'agriculture. 33 7 64 45 51 41. Quelques messages d'auditeurs. Koumaou, qui est à Yaoundé, au Cameroun, nous dit « Moi, je vis dans une zone agraire et j'aime bien observer ces mamans âgées qui, armées de leurs hottes en osier, avec des outils rudimentaires, se rendent de bonne heure au champ. Ici, l'agriculture n'intéresse guère la jeunesse parce qu'il y a d'abord un manque de terres cultivables, un manque d'outils agraires, un manque de capitaux. Pour la jeunesse, agriculture, ça veut dire maman âgée. » Vous êtes d'accord avec ça, avec cette analyse, Pascal Bonnet, ou un peu caricatural quand même, en quelques mots?
Oui, c'est un petit peu caricatural, mais il y a un fond de vérité, évidemment, sur ces métiers, en tout cas ces activités qu'il décrit.
Ousmane est, lui, dans la région de Ségou, au Mali. L'avenir de l'agriculture en Afrique dépend, à n'en point douter, de sa modernisation. Mais malheureusement, on en est encore loin. Bah écoutez, déjà, il faudrait que de jeunes entrepreneurs connaissent ces nouveaux métiers. Eh bien, on s'y met, on en parle chez 7 milliards de voisins. Et vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et nous sommes en ligne avec un auditeur, Vissoum, qui est à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous enseignez la production bovine à l'université et vous avez dit au Standard que vous observez qu'il y a eu un retour en arrière de la mécanisation au Burkina Faso. Pourquoi donc?
Oui, exactement. On a essayé de faire un diagnostic au Burkina. On s'est rendu compte qu'il y a eu l'introduction de beaucoup d'outils.
Oui.
Mais à un moment donné, les acteurs n'arrivaient plus à maîtriser la manipulation, l'utilisation, la maintenance même de ces outils. Ce qui a fait qu'il y a un retour en arrière des 20 dernières années de la mécanisation.
Ah oui.
Et il faut faire un travail pour ramener, parce que le travail agricole est pénible,
oui,
et nous avons besoin d'outils appropriés pour permettre aux producteurs de moins souffrir.
Mmh. Et vous, c'est ce que vous faites à l'université? Vous essayez de concevoir des outils qui rendent le travail moins pénible? Je crois que vous avez créé un semoir.
Exactement. Nous sommes en train de, dans le cadre de la mécanisation agricole appuyée, nous sommes à la recherche d'outils simples à la portée du petit producteur. Si vous remarquez, ce sont les petits producteurs qui, jusqu'à présent, à 90% approvisionnent les villes et les campagnes du Burkina Faso. Donc, une mécanisation doit être adaptée à leur capacité financière et puis aussi à leur capacité d'utilisation.
Merci Vissoum. En tout cas, vous lancez bien le débat. Merci de nous avoir appelé de Bobo Dioulasso. Pascal Bonnet, alors est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un retour en arrière alors qu'on n'arrête pas de dire que les travaux agricoles, les travaux des champs sur le continent africain sont extrêmement pénibles? On a en plus ce retour en arrière d'une petite mécanisation et de petits progrès qui avaient été accomplis ces dernières années?
Alors il y a certainement un certain nombre d'explications. En effet, la mécanisation est une tendance, bien sûr, mais on a des allers-retours. Et il y a des conditions, bien sûr, à l'adoption de la mécanisation, et l'auditeur vient d'en mentionner quelques-uns. Il y a la maîtrise technique, et qui implique, bien sûr, de comprendre comment ça marche, et donc de la formation, du conseil. Les nouveaux outils du numérique peuvent pas mal accompagner ça. On a des problématiques de maintenance des outils, donc ça, c'est des métiers qui sont autour de l'agriculture, hein, des CAP de mécaniciens, par exemple.
Ouais. S'il n'y a pas de mécanicien en zone rurale, comment on fait pour entretenir les outils?
Exactement, et donc ça oblige à travailler sur des concepts d'outils low cost, relativement faciles à réparer, bien sûr.
Et quand vous parliez du numérique, par exemple, on pourrait se transmettre des plans pour concevoir des outils, des modes d'emploi pour les réparer, par exemple?
Absolument. Beaucoup de guides, que ce soit à travers des guides écrits ou bien des guides oraux, hein, à l'oral, bien sûr, peuvent accompagner finalement la pratique de ces outils.
Des tutos, finalement.
Des tutos, exactement. Ou des conseils en direct.
Chaque jeune, y compris urbain, aujourd'hui, sur le continent, vit dans une famille qui a encore un lien avec la terre, via une parcelle au village. Alors, est-ce que vraiment l'image de l'agriculture auprès des jeunes est si mauvaise que cela, ou c'est plus compliqué, Pascal Bonnet?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'image des jeunes, disons ruraux, peut être de deux ordres. Il y a les jeunes agricoles qui vivent dans les familles agricoles et qui sont en contact direct, évidemment. Et puis, il y a les jeunes ruraux, je dirais, qui ne sont pas dans le milieu agricole, mais qui sont en milieu rural et qui regardent l'agriculture de loin. Donc, ils connaissent un peu moins les tenants, les aboutissants. Et dans les deux cas, de toute manière, il y a deux visions. Il y a une vision très travail manuel qui est un petit peu... rejette un petit peu. Les questions d'attractivité, évidemment, sont faibles sur ce type de travail manuel agricole. Mais il y a aussi l'attrait de la technologie. On voit l'attraction en Afrique de l'Est, par exemple, pour les tracteurs, pour la mécanisation lourde. Et le numérique et les nouveaux outils, comme le drone, par exemple, dont on va parler, se situent entre ces deux extrêmes.
C'est-à-dire entre les gros tracteurs et entre le petit outil que l'on manie uniquement avec la main de l'homme.
Exactement, avec un renouveau finalement de la vision. Parce que le tracteur, on connaît ça depuis les années 50, et puis le travail manuel depuis le 19e siècle. Donc la nouveauté, elle est dans les mains des jeunes avec les smartphones ou les téléphones portables, tout simplement. Et puis aussi avec ces visions, par exemple du drone, qui est assez emblématique de cette dynamique.
Alors justement, on va en parler avec vous, Edona Etchri. En 2014, d'abord, vous avez commencé par fonder une plateforme e-agribusiness, qui est une plateforme de mise en relation des producteurs et des acheteurs, mais aussi avec des informations météo, des conseils pour les agriculteurs. Aujourd'hui, ce type de plateforme, on les trouve un peu partout sur le continent. Les agriculteurs sont assez familiarisés, ils savent les utiliser, même s'ils ne sont pas allés beaucoup à l'école.
Oui, bien sûr, il faut dire qu'au début, c'était un peu difficile, mais avec les canaux que nous proposons et qui sont un peu adaptés à leur réalité, comme un centre d'appel en langue locale, par exemple, qui rapproche plus les agriculteurs en alphabet, au lieu des applications mobiles, des sites web que nous proposons, cela a permis quand même à plusieurs agriculteurs une prise en main facile en téléphonant juste un numéro et de pouvoir accéder à des services. Plus loin, il y a aussi le problème de connectivité. La connectivité Internet n'est pas forcément au rendez-vous dans les fermes. Et il y a aussi, pour ceux-là qui savent lire et écrire, qui font une prise en main via le canal USSD, qui est aussi un canal de prédilection, mis à part tout ce qui est site web et puis applications mobiles.
Ouais. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ça peut fonctionner même s'il n'y a pas d'Internet, de connexion?
C'est exact, ça peut fonctionner même s'il n'y a pas d'Internet. Il suffit qu'ils aient un réseau GSM dans la zone et puis ils pourront, via un menu USSD, parcourir des fonctionnalités, déclarer son stock, par exemple, pour trouver un acheteur et être rappelé surtout en B2B parce que l'objectif au finish, c'est de pouvoir raccourcir la chaîne en mettant directement l'acheteur en lien avec le producteur.
Voilà, B2B, c'est ça, hein, c'est business to business. On va essayer de ne pas trop jargonner des Donna et Chri parce qu'on voudrait être compris par le plus grand nombre. Mais en tout cas, c'est allé assez vite finalement, cette facilité de manipulation de ces plateformes via le téléphone portable, même quand il ne s'agit pas d'un smartphone relié à Internet. Alors, vous êtes allé plus loin. Il y a 2 ans, vous avez ouvert une école pour former à l'utilisation de drones dans l'agriculture. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer rapidement, simplement, qu'est-ce que c'est qu'un drone ?
Un drone, c'est d'abord un mini-avion, si je peux le dire, et qui est télépiloté, c'est-à-dire qui est manipulé par un individu à distance et qui permet de pouvoir réaliser un certain nombre de tâches. Mmh. Et la meilleure connaissance qu'ont les gens des drones, c'est plus la prise des photos, de vues, de vidéos, etc., pour peut-être des causes familiales, des fêtes. Mais nous allons plus loin avec les drones en les utilisant pour pulvériser, par exemple, les parcelles en 30 minutes, en une heure, ce que l'agriculteur fera de façon manuelle avec 4 heures. Et nous utilisons ces drones-là pour pouvoir aussi détecter des maladies, faire de la prévision des récoltes, du rendement, etc.
Voilà. Alors, attendez, un drone qui pulvérise des intrants, ça, j'imagine bien, mais comment un drone peut détecter des maladies dans le sol ou sur les plantes?
Avec un drone, dans un premier temps, nous prenons en fait une vue de la parcelle. Donc après, il y a des logiciels qui permettent de pouvoir analyser ces images-là.
D'accord, c'est via la photo.
Oui, la photo. Et au travers des indices de végétation, nous faisons différentes interprétations qui vont au finish servir à pouvoir réaliser des traitements avec précision.
En quoi ça intéresse les jeunes aujourd'hui?
Ben, ça intéresse les jeunes parce que aujourd'hui, la plupart des jeunes sont très fans de la technologie. Ils ont pratiquement des smartphones à la main. Et il faut le rappeler, l'agriculture ou le secteur agricole n'est pas assez attractif. Et quand on parle agriculture, dans nos têtes, c'est la tabac, c'est le coucou, la roue, etc. C'est aussi un travail pénible. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment ramener plusieurs jeunes vers ce secteur qui n'emploie aujourd'hui que plusieurs personnes qui sont très âgées et qui vont bientôt laisser le métier, il faut pouvoir trouver un canal pour rendre l'agriculture sexy, comme nous avons l'habitude de le dire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la technologie se révèle être le moyen le plus adéquat d'attirer les jeunes vers le secteur agricole.
Ouais. Pascal Bonnet, les drones aujourd'hui sur le continent africain, puisqu'on disait que l'agriculture a trop cette image de maman âgée, est-ce que c'est un gadget qui peut rendre l'agriculture sexy ou c'est un gadget qui peut augmenter les rendements de l'agriculture réellement? Parce que les jeunes ne sont pas dupes, ce qu'ils veulent aussi à la fin, c'est gagner leur vie plus décemment que leur maman ou grand-mère.
Absolument, et le drone quand même révolutionne le jeu, je dirais, puisque le drone est devenu quelque chose d'accessible. Alors on parle beaucoup de coûts d'accès à ces technologies, mais il y a des drones low cost par exemple qui existent et qui sont construits en Afrique, au Rwanda par exemple, et en Afrique de l'Ouest. Donc ces drones, c'est nouveau, ça n'existait pas tout simplement.
Qu'est-ce qu'on avait à voir ? Quand vous dites low cost, ça peut coûter combien ?
Alors on peut faire des drones en plastique ou en balsa, et en balsa ça va coûter très 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 peu cher. Hein. Bien sûr, ce qui va coûter, ce sont les moteurs, évidemment, qui sont des technologies par contre qui sont un peu plus coûteuses. Je n'ai pas de tarif vraiment en tête, mais par exemple pour le smartphone, qui est une autre technologie, les Indiens avaient inventé un smartphone à $8. Donc $8, ça commence à être accessible. Donc on est sur des exemples où finalement, bien qu'aujourd'hui encore l'accès soit délicat, hein, c'est d'un point de vue financier, on est vers des tendances, vers des accès pour tout le monde. Le deuxième point, c'est le point des infrastructures qui a été mentionné. Dans le cas du drone, on n'a quasiment pas besoin d'infrastructures. Ce qu'on a besoin, c'est d'un bon pilote. Et donc là, il y a un nouveau métier qui se développe, hein, c'est pilote de drone, hein, bien sûr. Et ça a été évoqué par notre collègue.
Le pilote reste au sol, hein, je le précise
le
bien.
Le pilote absolument reste au sol, il pilote depuis le sol. Et évidemment, pour faire maintenant, pour passer de l'expérimentation du drone et de son usage à sa mise en économie, si j'ose dire, il faut faire des économies d'échelle. Et tout le monde s'entend pour dire que finalement, les usages des drones, que ce soit pour faire de la cartographie détaillée finalement du foncier, hein, et pour pouvoir détecter des maladies avec des capteurs infrarouges par exemple, hein, ou pour pulvériser de l'herbicide ou des intrants, ben ça se fera sur des plus grandes surfaces que la simple petite surface d'un agriculteur. Il faut donc collectiviser son usage. Ça, c'est un point très important.
Alors, via quoi ? Via des organisations paysannes ? Via des coopératives ?
Absolument. Je crois qu'il faut absolument que ces nouvelles technologies, elles gagnent à travers les organisations paysannes, associations de producteurs, bien sûr, mais aussi interprofessions des filières agricoles, hein, qui sont un autre type d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, qui les utilise finalement de manière là, cette fois-ci, moins expérimentale, mais clairement opérationnelle, ce sont les très grandes entreprises agricoles. Elles ont tout intégré.
Oui, et effectivement, il faudrait que ça puisse aussi profiter à des agriculteurs qui ont des petites parcelles et qu'ils puissent profiter de ces technologies, même s'ils n'en sont pas propriétaires. Trois options de formation pour votre école et des Donna Etchery. Du pilotage simple, de la formation pilote agricole pour faire des traitements cartographie, de l'agriculture de précision, hein, avec la maîtrise des traitements. Vous allez ouvrir une autre option aussi qui est carrément la fabrication de drones.
Exactement, c'est bien cela. Donc pour le moment, nous avons ces trois options qui sont des options certifiantes, mais nous avons ouvert aussi tout dernièrement des formations modulaires pour permettre à des personnes qui veulent juste avoir des connaissances assez spécifiques de pouvoir aussi le faire, et nous entrevoyons très prochainement d'ouvrir aussi la branche de maintenance et de montage et de fabrication de drones.
Les jeunes que vous avez dans cette école, est-ce qu'ils sortent tous d'une formation déjà universitaire, d'agronomie, ou vous avez des jeunes qui n'ont pas le bac, par exemple ?
Ben, il faut dire que nous avons plusieurs types de profils au sein de notre école. Donc, nous n'exigeons pas un niveau donné. Il faut juste avoir la volonté, l'esprit d'apprendre et de s'adapter rapidement et de comprendre. Et puis, vous pourrez vous faire former au sein de notre école. Donc, c'est d'abord ça. Mais ensuite, dès que nous avons débuté, nous avons quand même un certain nombre de profils diversifiés. Nous avons par exemple des ingénieurs agronomes qui se font former chez nous, des professeurs même d'université qui se font former chez nous. Et nous avons aussi des jeunes qui n'ont pas forcément le bac, qui ont le niveau BPC ou pas, qui se font aussi former chez nous.
Oui,
l'idéal, et qui s'en sont très bien d'ailleurs.
C'est ça, l'idéal, c'est qu'il faudrait que ça redescende. Le problème, c'est qu'il faut avoir aussi le pouvoir d'achat, hein, parce qu'une formation, je crois que pour la formation agriculture de précision, on est autour de 400 000 francs CFA, c'est ça ?
Oui, on est autour de 400 000 francs CFA, un peu plus de 600 euros. Et ce n'est pas tout le monde qui a à peu près ce pouvoir d'achat-là, mais il faut dire que nous faisons toujours des efforts pour pouvoir accorder un certain nombre de facilités à certains jeunes, à certaines personnes qui viennent nous voir et qui ont vraiment la volonté de pouvoir faire cette formation. Et cette année, nous avons designé même des formations qui commencent à partir de 50 000 francs CFA et qui leur permettent en plusieurs étapes de pouvoir aboutir finalement à la certification en agriculture de précision.
Oui.
Alors, c'est donc, nous trouvons quand même plusieurs moyens de pouvoir accompagner les jeunes, mais il sera encore bien si nous avons sur notre chemin des organismes qui peuvent peut-être appuyer et subventionner certains jeunes. Ça nous aiderait beaucoup parce que la formation aussi, ça nous coûte beaucoup plus et on a besoin de fonds aussi pour rouler et on ne pourra pas le faire aussi moins cher au risque de fermer notre structure.
Vous êtes un entrepreneur à la base. Alors évidemment, la plateforme e-agribusiness vous a rapporté de l'argent, ça vous a permis de lancer cette école. Mais pour l'instant, cette école, elle est embryonnaire. Vous avez formé une vingtaine de gens, donc ça peut sembler complètement négligeable face aux enjeux de l'agriculture en Afrique. Hein. On va le dire honnêtement, même si on est sur des pistes très prometteuses. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour former plus de jeunes, pour qu'on passe à une autre échelle ?
Ah, je crois que ce qui manque le plus pour nous, c'est d'abord l'information, c'est de faire une très bonne publicité pour que l'information soit accessible au plus grand nombre de personnes. Maintenant, ensuite, au-delà de l'aspect publicité, pour que les gens soient quand même informés, je crois que nous faisons quand même un travail d'impact. Et c'est cela plus qui nous intéresse aujourd'hui, puisque parmi ceux que nous avons formés, il y a des étudiants qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Bénin et même de notre propre pays, le Togo. Donc, et ces étudiants-là ont déjà commencé par être opérationnels dans leur pays. Et donc, je peux par exemple parler de AgroBest du Cameroun et d'un autre étudiant aussi qui a ouvert au Mali. Donc, c'est plus un travail d'impact que nous faisons. Mais nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons plus de moyens pour pouvoir communiquer assez et aussi peut-être être appuyés par des organismes pour accueillir plus de jeunes au sein de notre centre.
Vous restez avec nous, Edona Etchri. On parle de tous ces nouveaux métiers reliés à l'agriculture en Afrique. Un message d'Armélie qui est à Pointe-Noire au Congo. Elle nous dit, elle est commerçante. Ma boutique est à côté d'un distributeur de produits agricoles et je vois bien que les jeunes trentenaires sont intéressés par l'agriculture. Ils achètent des engrais, des semences, des insecticides, des outils. Voilà, ça témoigne peut-être d'un frémissement. Vous nous appelez en tout cas. On va parler de l'irrigation dans quelques instants. Est-ce que tous ces nouveaux métiers peuvent attirer les jeunes ? Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Ça sera juste après Kadi Diarra qui chante La magie de la nuit. Souf. Milliards de voisins, on est en direct sur RFI, on parle des nouveaux métiers de l'agriculture en Afrique, l'agriculture qui emploie entre 65 et 70% de la main-d'œuvre selon la Banque africaine de développement, mais qui ne génère que 30 à 40% du PIB. Un secteur, des métiers pénibles, qui a besoin de jeunes, mais les jeunes auraient bien besoin aussi de ce gros bassin d'emploi. Encore faut-il que ces métiers évoluent, se rapprochent aussi des attentes des jeunes qui veulent de meilleurs revenus. On vous donne la parole, bien évidemment, au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec un voisin qui nous appelle de la région de Thiès au Sénégal. Bonjour Mass.
Oui, bonjour, Catherine, bonjour.
Mass, vous êtes agriculteur, hein, vous souhaitez nous parler de la problématique de l'irrigation dans ces nouveaux métiers.
Oui, c'est ça. Bon, bonjour à tout le monde.
Soyez le bienvenu, Mass.
Voilà, donc nous sommes dans une zone qui est assez aride.
Oui.
Où on commençait d'abord à faire l'irrigation par aspersion. Donc on se rendait compte à peine 2 à 3 heures après l'irrigation, que les terres se desséchaient. Parce qu'il y avait cette forte exposition.
Mm-hmm. C'est-à-dire, quand vous utilisez l'irrigation par aspersion, parce que technologiquement, Pascal Bonnet, qu'est-ce qui se passe quand c'est de l'aspersion, pour ceux qui ne connaissent rien à ces techniques?
En fait, par rapport à l'irrigation où on fait couler de l'eau à terre, l'aspersion, c'est guidé, je dirais, par tout un système de tuyautage et de spray, de pulvérisateur.
Il y a de la déperdition d'eau, c'est ça?
Et il y a de la déperdition dans les deux cas, évidemment, mais moindre dans le cas, en général, du contrôle par les sprays, par les pulvérisateurs.
Mm-hmm. Mass, donc cette méthode d'aspersion, aujourd'hui, vous ne l'utilisez plus?
On a commencé à le délaisser depuis un certain moment, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait utiliser des systèmes goutte à goutte.
Oui.
Parce que l'eau, le temps de s'infiltrer est vraiment des trucs beaucoup plus utile à la plante.
Mm-hmm.
Parce que dans notre zone, c'est un peu, il y a beaucoup d'érosion, donc il y a beaucoup de vent.
Oui.
Donc, si vous arrosez à la volée, vous risquez de perdre pratiquement avec l'évaporation.
C'est ça, le vent procède à l'évaporation de l'arrosage. Donc, vous êtes passé à ce goutte à goutte. Est-ce que c'est de la micro-irrigation, ce que vous utilisez?
Effectivement, c'est de la micro-irrigation.
Mm-hmm.
Bah, voilà, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Et on s'est rendu compte qu'en termes de gain de travail et de rendement également, on avait des améliorations.
Donc, moins de temps perdu pour ceux qui cultivent et plus de rendement, donc plus d'argent.
Parce qu'on a la possibilité de fertiliser en même temps à travers ces tours.
Ah,
alors qu'également, voilà. Parce que lorsqu'on faisait l'autre système, on achetait les engrais qu'on appendait comme ça. Il y avait beaucoup de pertes. Mais maintenant, on a la possibilité, avec les engrais solubles, maintenant de les faire écouler dans les tours. Et ça, c'est beaucoup plus bénéfique en termes d'en rendement également, d'argent.
Vous cultivez du maraîchage, c'est ça, et des citronniers et des manguiers, c'est ça, c'est ça?
Effectivement, c'est des légumes. C'est, ouais,
et, voilà. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez généraliser ces technologies ou ça coûte trop cher pour vous?
Bon, ça coûte trop cher. Parce que c'est du matériel qui est importé, qui n'est pas fait au niveau local. Donc, parfois, c'est de la récupération pour certaines parcelles, mais pour d'autres, vous êtes obligé d'acheter du neuf. C'est pas la porte de tout le monde.
Est-ce que cette technologie intéresse les jeunes qui travaillent sur vos parcelles, Mass?
Oui, ça intéresserait tout le monde. Parce que vous savez, c'est très pénible de d'abord d'être dans son champ, de vouloir aussi bien désherber, d'arroser, de faire tous les travaux en même temps. Maintenant, si vous avez ce système-là, ça vous permet de gagner en temps et pouvoir maintenant même aller se rendre au marché et vendre vos propres produits. Alors que si vous faisiez l'ancien système, donc vous êtes obligé d'être là tout le temps parce que sinon les plantes risquent de... Voilà.
Merci à vous. Merci, Mass, de nous avoir appelé. Oui, le désherbage, ça fait partie quand même des tâches extrêmement pénibles. Plus on irrigue trop loin, pas assez centré sur la plante, plus il y a à désherber, non, logiquement.
Oui, alors le désherbage a toujours fait partie de l'agriculture, évidemment, donc d'où l'usage des herbicides qui ont beaucoup été développés aussi pour diminuer le temps de travail finalement à sarcler à la main, en fait, et à éliminer à la main. Ce que je voudrais rajouter sur l'irrigation est un cas d'étude très intéressant parce qu'en fait, on est passé de l'irrigation en rigole, je dirais, à l'ancienne, à l'aspersion qui a été mentionnée, et puis maintenant au goutte à goutte, il reste que c'est une activité de précision. Et par exemple, l'agriculture numérique s'intéresse à l'irrigation de précision, mais aussi finalement à des domaines auxquels on ne pense pas nécessairement, mais pour déclencher une motopompe au moment où il faut irriguer, bah, si on a une motopompe électrique ou si on a une motopompe à main, bah, il va falloir avoir une action manuelle, ou alors on peut, au Sénégal par exemple, maintenant avec des technologies, déclencher à distance avec un petit SMS, en envoyant un SMS, notre pompe qui est à 5 km, je n'ai pas besoin de me déplacer pour la démarrer ou l'éteindre. Donc, vous voyez, un usage tout à fait étonnant et tout
ça,
simple.
Ça veut dire qu'autour, il faut des techniciens chargés de la maintenance de ces équipements, des horloges, du système informatique relié aux tuyaux, etc., etc., en amont.
Absolument. Et il y a tout un ensemble de décisions à prendre qui sont aidées évidemment par différentes techniques et par des gens qui sont capables de maîtriser ces techniques. On a par exemple des capteurs que l'on peut mettre sur les sols irrigués pour mesurer l'humidité finalement du sol et savoir s'il faut irriguer ou pas irriguer. Vous voyez, c'est un deuxième type d'outil. À la fin, on arrive à des outils d'aide à la décision, on les appelle comme ça, hein, mais qui mélangent énormément de types d'informations. Il faut aussi des experts qui soient capables de nous proposer des outils d'aide à la décision simples à comprendre.
Ouais, évidemment, on est très éloigné des fameux allers-retours entre le puits et le champ avec l'arrosoir qui pèse toujours trop lourd. Vous nous appelez, on parle des nouveaux métiers de l'agriculture en Afrique. 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec M. Donkor Akambou, directeur général des aménagements hydro-agricoles et du développement de l'irrigation au ministère de l'Agriculture au Burkina Faso. Merci d'être en ligne avec nous, M. Akambou.
Merci, c'est moi qui vous remercie de nous associer à cette importante émission.
Alors, on va parler
un peu de ce que nous faisons dans le domaine de l'irrigation.
Exactement, vous êtes à la tête de tout un programme de fermes pilotes au Burkina Faso, mais forcément, il faut aussi que je vous interroge sur l'actualité, parce que le Burkina est confronté à des déplacements de population sans précédent à cause du conflit au Sahel. Près d'1,5 million de personnes qui sont déplacées, principalement dans des zones rurales, on en parle beaucoup sur notre antenne sur RFI. Est-ce que le secteur agricole est du coup très déstabilisé par le conflit ?
C'est vrai que ce que vous dites, nous sommes confrontés à une situation difficile liée donc à la crise sécuritaire, mais également actuellement à la crise sanitaire. Mais il faut dire que effectivement, la crise sécuritaire impacte négativement sur le développement des activités agricoles. Nous avons un certain nombre donc d'actions, d'activités qui sont interrompues sur certains périmètres irrigués qui ne sont plus accessibles ou donc les producteurs ne peuvent effectivement plus travailler. Mais le gouvernement déploie des efforts pour accompagner donc les personnes déplacées à se trouver donc de nouveaux espaces de production, notamment irrigués, pour permettre donc de continuer à développer des moyens d'existence.
Mais du coup, ça veut dire que la crise sécuritaire agit comme un repoussoir supplémentaire auprès des jeunes, en dehors du fait que l'agriculture ne rapporte pas suffisamment d'argent ?
Disons que dans les zones qui sont effectivement touchées, nous avons particulièrement la zone de l'Est et la zone du Sahel, nous avons effectivement des systèmes de production qui ne sont plus accessibles, mais comme je l'ai dit, cela n'empêche que ces personnes, là où elles sont donc installées, bénéficient de l'accompagnement du gouvernement, effectivement, pour continuer des activités de production, en termes d'intrants, en termes d'équipement d'irrigation, mais également en termes donc d'appui immédiat à moyen de subsistance.
Alors, vous avez démarré donc un programme il y a 2 ans avec 19 fermes pilotes qui testent des méthodes d'irrigation. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et en quoi ça intéresse les jeunes ?
Disons que c'est un nouveau système que le gouvernement a décidé de mettre en place pour essayer donc d'inverser la tendance dans le domaine donc de la production agricole. Parce que nous sommes dans un pays aride où effectivement la pluviométrie connaît des caprices. Nous avons beaucoup de poches de sécheresse qui entraînent chaque année près de 87% donc des pertes de production. Nous avons environ 290 000 tonnes de céréales que nous perdons chaque année. Et donc l'innovation, c'est d'introduire un nouveau système de production agro-silvopastoral et halieutique innovant et qui permet donc d'installer des jeunes et des femmes sur des petites exploitations agricoles, qui permet également d'installer des groupements communautaires sur ces petits espaces de production agricole ou des jeunes qui sortent donc des formations, des écoles de formation professionnelle pour qu'ils puissent permettre donc de produire, d'intervenir dans les domaines agricoles. Alors effectivement, en 2019, il y a eu 8 fermes pilotes qui ont été mises en place et au regard des résultats concluants, pour 2020-2021, le gouvernement a décidé d'élargir cette offre-là à près de 500 modèles à travers l'ensemble du pays. Et au jour d'aujourd'hui, on peut se satisfaire de constater qu'il y a plus de 50 fermes qui sont prêtes, qui sont donc fonctionnelles, et il y a près de 200 autres qui sont en phase de finition. Et pour ceux qui ont donc les modèles qui sont prêts, qui fonctionnent, et ce sont des gens qui sont satisfaits du fait de la facilité d'utilisation de ce système qui est basé en fait sur l'utilisation de l'eau souterraine, oui, l'utilisation de l'énergie solaire pour donc le pompage de l'eau et la diversification des activités de production sur une petite superficie de 3 hectares extensible. Alors, ce dispositif a la particularité de permettre de réaliser annuellement au moins 3 cycles de production agricole par an. Oui. Et sur le même espace, on peut produire et récolter 3 fois dans la même année, ce qui n'est pas le cas dans un système de production classique. Ça permet également de diversifier la production agricole. On ne fait pas seulement que de l'irrigation, mais on fait également la production pastorale et surtout halieutique. Donc, on préconise la production donc du poisson sur ces espaces-là et l'utilisation de l'eau issue de la production du poisson pour l'irrigation, donc pour donc enrichir les fermes en azote. Alors, cela permet... Oui ?
Oui, oui, allez-y, je vous en prie.
Dit que cela permet en tout cas de créer des emplois. Pour ceux qui ont bénéficié de ces modèles, ce sont des personnes qui sont, ou des associations qui sont aujourd'hui autonomes, qui emploient des jeunes pour travailler sur ces exploitations et qui, en tout cas, selon les évaluations que nous avons pu faire cette année, en tout cas sur la plupart des fermes, on a pu constater en tout cas des gains de production de 50 tonnes, par exemple, de céréales et de plus de 60 tonnes de produits maraîchers que ces gens ont pu dégager. Et également au niveau de la production piscicole, on a pu également constater qu'il y a eu d'énormes gains en termes donc de revenus monétaires que ces producteurs ont pu engranger. Ce qui fait qu'il y a un fort engouement aujourd'hui pour le développement de ce modèle et le gouvernement, en tout cas, incite l'ensemble des partenaires techniques et financiers à accompagner ce nouveau système pour qu'on puisse justement permettre à beaucoup de jeunes, de femmes, de s'installer à leur propre compte et donc d'avoir un système de production agricole décent.
Alors, ce qu'il faut quand même bien, ce qu'il faut bien préciser, donc à Racambou, c'est que ces fermes pilotes, elles sont subventionnées par l'État. Hein. Le promoteur apporte une mise de fonds et l'État apporte le reste. Mais on comprend bien aussi que ça procède d'une façon très différente de cultiver pour augmenter les rendements. Est-ce que ça fait aussi apparaître, avec le recul que vous avez de près de 2 années, la nécessité de mettre au point davantage de nouveaux métiers autour, notamment de la maintenance des équipements, de la construction de châteaux d'eau pour stocker l'eau de pluie, donc des métiers de la construction, de clôture de parcelles pour protéger des animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toute cette main-d'œuvre disponible, ces savoir-faire autour des métiers de l'agriculture sans que ça soit à proprement parler le cultivateur lui-même?
Vous avez entièrement raison. Ces fermes pilotes sont effectivement subventionnées par l'État à hauteur donc de 70 à 90%, les bénéficiaires apportant donc le reste de la subvention, soit donc 10 à 30% donc des coûts d'implantation du modèle. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la mise en place de ce modèle engendre effectivement un besoin de main-d'œuvre ou en tout cas un besoin de spécialistes ou d'artisans dans certains domaines. Et justement, l'expérience pilote a permis donc de regarder un peu ces métiers qui se développent autour de ce système-là. Et justement, il y a un ensemble d'acteurs qui se sont mobilisés pour accompagner le système. C'est ainsi qu'on peut donc noter le développement donc de ceux-là qui fabriquent, par exemple, le grillage, parce qu'il faut que l'espace de 3 hectares soit au moins clôturé, grillagé, pour empêcher aux animaux d'accéder à cet espace-là.
Donc, Merci beaucoup encore à Cambou. On va donner la parole à un étudiant qui nous appelle, qui est en Master 2 en Commerce Management, qui est à Dakar au Sénégal, qui veut s'exprimer et poser une question. Bonjour Sori.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. D'ailleurs, je reprécise notre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient nous contacter, poser des questions à nos invités. C'est le 33 7 64 45 51 41. Sori, vous êtes étudiant, vous êtes intéressé par l'agriculture ?
Oui, je suis intéressé par l'agriculture. Voire même si ici, des familles des agriculteurs.
Oui.
Ouais, j'ai entendu l'émission, vraiment, l'émission qui est très, très, très intéressante, quoi. Parce qu'il parlait de ce qui est de mes rêves, quoi. C'est-à-dire dans l'agriculture, de se donner dans l'agriculture.
Et donc, vous avez de la famille à Kolda, hein, c'est ça, qui cultive ?
Oui, dans les zones rurales, quoi, dans la commune de Guerreiro.
Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous observez, comment ça se passe? Est-ce que ça vous tente, ça vous intéresserait de faire la même chose?
Oui, ça m'intéresse, vraiment, ça m'intéresse, parce que mais d'une manière un peu moderne. Ça. L'agriculture que font mes parents, vraiment, c'est l'agriculture qui est limitée directement au survie, quoi, c'est-à-dire cultiver pour vraiment survivre, quoi, alors qu'on pouvait, on pouvait exploiter d'une autre manière. Quoi.
Ouais.
Mais bon, les moyens, on est obligé d'y arrêter là-bas. Quoi. Bon, en entendant l'émission, j'ai dit, attends, j'ai essayé de participer et donner quelques témoignages sur l'agriculture dans les gens de ma région. Quoi.
Ouais. Vous ne voulez plus d'une agriculture de subsistance pour vous, pour votre famille future. Vous avez une question en particulier, Sori?
Oui, c'est juste, bon, je voulais savoir comment vraiment trouver dans cette moyenne, pour avoir les moyens ou bien avoir des financements pour vraiment booster, changer la manière dont ils vivent dans les zones rurales. Quoi.
Vous connaissez l'émission de télé-réalité sénégalaise Farm Factory?
Je vous entends, vous dites.
Ouais. Est-ce que vous connaissez l'émission de télé-réalité dans votre pays, Farm Factory? Vous la regardez à la télé?
Non. C'est juste parce que je viens d'entendre ça. Vous dites qu'il y a quelqu'un au Sénégal qui a réalisé ça.
Oui, d'accord. Mais vous ne l'avez jamais regardé?
Non.
Bon, ben, je vous conseille de regarder. Il peut y avoir des solutions pour vous. On est en ligne, justement, à Dakar avec Ousmane Faye. Bonjour, Ousmane Faye.
Oui, bonjour, Emmanuel.
Vous avez entendu le témoignage de Sori, qu'on remercie d'ailleurs. Hein. On vous remercie tous pour vos appels, qui dit « Moi, je ne veux pas cultiver comme mes parents à Kolda, juste pour survivre. » Vous êtes le producteur de Farm Factory, qui est une émission de télé-réalité à gros succès, qui est une compétition agricole entre jeunes, avec à la clé de la formation, de l'aide financière. Il y a du bruit dans le téléphone sur la ligne. Alors, je ne sais pas si vous touchez le micro, Ousmane Faye, il ne faut pas le toucher. Et pour la saison 2... Oui, là c'est bon, je crois qu'on vous entend bien. Pour la saison 2 de Farm Factory, vous avez eu plus de 1000 candidatures, c'est ça?
Oui, exactement. Nous avons plus de 1000 candidatures. Voilà, permettez-moi de dire qu'effectivement, Sori a raison. C'est cette image-là qu'il faudrait casser. Et Farm Factory s'attaque à cela. Donc déconstruire cette image de l'agriculture, de subsistance, du paysan, quoi, comme on le dit. Voilà, c'est ça, en fait, ça fait partie des objectifs de Farm Factory, avec le support donc télé ou télé-réalité que nous avons, qui permet en fait de montrer, de former et d'intégrer des jeunes agriculteurs, disons, producteurs agricoles, modernes, outillés, qui aujourd'hui ont une autre vision, ont une autre perception de l'agriculture, parce que c'est un métier qui s'apprend à l'école, c'est un métier scientifique, technique, qu'on apprend dans les universités et qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise, mais aussi beaucoup de moyens, comme le dit Sori.
Mais ce n'est pas un métier réservé au Bac plus 5 à l'avenir, rassurez-nous. Hein. Tout le monde a sa place.
Non, pas du tout, c'est un métier qui est réservé à tout le monde, voilà. C'est un métier accessible.
Alors, il ne faut quand même pas se leurrer, hein. dans la série Farm Factory, on voit quand même les jeunes désherber, se casser le dos à des épreuves physiques. Hein. Mais vous avez aussi intégré des métiers plus nouveaux également dans la deuxième saison, je crois.
Oui, tout à fait. Pour faire ce genre de travail, effectivement, il faudrait intégrer tout ce qui est aujourd'hui nouveau métier. Je pense au digital, la manière aujourd'hui de d'irriguer, de surveiller les plantes, de regarder les maladies, même de les soigner aujourd'hui, à une technologie qui permet donc d'agir en un temps record pour ne pas perdre du temps à avoir de l'économie d'échelle. C'est le digital, c'est aussi la manière de diriger. Auparavant, il y avait des arrosoirs. Voilà, aujourd'hui, on parle de goutte à goutte, on parle d'aspersion. Et selon le type de sol qu'on a, on peut avoir aujourd'hui le choix, en tout cas, de diriger son champ ou d'avoir une exploitation d'eau ou d'énergie. Je pense au solaire aujourd'hui. Dans nos pays, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le soleil 24 sur 24. Comment fait-on donc pour engranger tout ça en une valeur ajoutée qui peut permettre d'aller plus vite et plus rapide, plus loin avec ce que nous faisons dans le cadre de Farm Factory. Donc nous inculquons tout cela à nos apprentis fermiers.
Le solaire qui peut évidemment combler le manque de réseau électrique en zone rurale, hein. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est quand même le premier frein à la modernisation de l'agriculture, le manque d'énergie disponible. Ousmane Faye, vous êtes un producteur de télévision. Depuis ces deux saisons que vous voyez, que vous observez les jeunes, qu'est-ce qui les intéresse le plus? Qu'est-ce qui les fait le plus vibrer dans les activités qui sont imposées par la compétition?
Écoutez, il y a le sport tout au début, hein, il y a le sport tout au début, il y a les challenges, parce qu'on est dans un monde de compétition où les gens aiment se mesurer, se challenger, mais au bout de quelques temps, nous les voyons s'attacher à la terre, s'attacher à l'agriculture, donc commencer à aimer donc les plantes, commencer à aimer les entretenir, donc les protéger. Et cela, en fait, nous donne un sentiment de rassurance, mais aussi de fierté, parce que, oui, les jeunes aujourd'hui sont intéressés par d'une manière générale, hein, dans tout le monde d'ailleurs, par le divertissement. Vous le voyez à Dakar avec les combats de lutte, mais il faudrait quand même créer d'autres supports d'attractivité qui les permettent donc de découvrir qu'il y a un autre monde que celui du jeu. Voilà, parce que pour dire que Fan Factory, c'est pas du jeu, c'est un projet de développement qui forme, qui intègre et qui insère dans un monde dit agriculture et qui peut nourrir son homme.
Ouais. Merci beaucoup Ousmane Faye. Alors bien sûr, on précise que la série Farm Factory, l'émission de télé-réalité, la deuxième saison sera diffusée à partir du 23 mai prochain, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, à partir du 23 mai sur la RTS. Et je voudrais remercier Anida et l'Union européenne qui nous soutiennent et tous les autres partenaires, hein, même aux bénévoles, à tous ceux qui sont autour de ce concept qui construisent. Je pense à Fatinia, ma sœur, qui est inlassable. Donc voilà quoi, nous sommes à la deuxième saison. J'invite tout le public sénégalais, mais tout le monde, à regarder et à s'inspirer, surtout nos cousins ivoiriens qui voudraient dupliquer ça en Côte d'Ivoire.
Ouais, Farm Factory va s'exporter, ça c'est certain. Merci beaucoup Ousmane Faye, producteur de Farm Factory, et Anida, donc, qui soutient, c'est l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Le CIRAD est aussi partenaire de Farm Factory. Voilà. On arrive à la conclusion de cette émission, Pascal Bonnet. On n'a pas parlé encore, juste en un mot, peut-être de ce nouveau métier pour les jeunes, de conseiller agricole, hein, parce que je crois que la gagnante de la première saison est devenue va devenir entre autres conseillère agricole. C'est quelque chose aussi, ça. C'est un métier d'avenir pour les jeunes autour de l'agriculture.
Absolument. Alors les contenus changent, les contenus du conseil agricole changent beaucoup, hein, puisque les façons de faire de l'agriculture évoluent, hein, on vient d'en mentionner quelques-unes, mais aussi les outils avec lesquels on conseille évoluent. Donc il va falloir, comment on conseille à travers un smartphone, ou comment on conseille en proximité auprès d'une organisation de producteurs ou d'un agriculteur, grâce à ces nouveaux outils, c'est tout l'enjeu. Ce qu'on observe quand même, c'est que, en tout cas pour les agriculteurs connectés, ils se connectent directement à des plateformes de conseils, hein. On a par exemple Access Agriculture en Afrique, là, qui développe des vidéos d'aide, voilà, qui sont accessibles en direct, hein. Alors, cette organisation de producteurs, c'est aux organisations de producteurs et aux conseillers de se saisir de tous ces outils.
Reste à savoir comment tous ces nouveaux équipements vont pouvoir être financés sur le continent africain. On voit que par exemple en Chine, c'est quand même allé relativement vite, mais parce que les géants du numérique aussi ont mis la main à la poche. Il y a des expériences en Chine dans l'irrigation de la fraise par exemple, où les paysans ne payent que l'eau consommée et tout ce qui est micro-irrigation est payé par des géants du numérique. Est-ce que ce sont des choses qui à terme pourraient se développer sur le continent africain ou pas pour l'instant?
En tout cas, tout aménagement du territoire, je dirais, qu'il soit fait par l'État ou par des GAFA, est important à considérer. Mais je retournerai à la question, quand on aménage un périmètre irrigué, est-ce qu'on ne devrait pas se rendre ce périmètre irrigué connecté d'entrée? Et c'est une question que je pose.
Ouais, travailler en amont. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous, Pascal Bonnet du CIRAD. Merci à Aidé Dona Echri, qui était à Lomé au Togo, hein, le fondateur de l'école iAgriSky pour la formation au pilotage de drones. Merci à Don Korakambou, au ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Et merci à vous, Ousmane Faye, pour Ferme Factory. On sera tous derrière le poste à partir du 23 mai pour la deuxième saison de cette compétition agricole. Demain, 7 milliards de voisins, jeunes et recherche d'emploi. Toutes vos questions, comme chaque mois, pour rechercher des offres, faire son CV, passer des entretiens, relancer les employeurs et surtout, surtout, avoir confiance en ses capacités. Très important pour vous, les jeunes. Vous nous appelez pour poser vos questions et être, bien sûr, conseillé demain en direct. 33 7 64 45 51 41. Autour de la question.